France Inter.
Aujourd'hui, forêt française entre expansion et dégradation, racontée par
Ingrid Bonhem, référente en écologie forestière à l'IGN.
Et Laurent Tillon, biologiste et ingénieur forestier à l'Office national des forêts.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
C'est étrange la forêt, on y ressent une forme d'équilibre, chaque être vivant y trouvant sa juste place qui tient compte du territoire des autres, mais également l'importance capitale des perturbations qui sont de puissants moteurs permettant un renouveau aux dépens d'autres arbres forcément. Le milieu suit sa propre trajectoire écologique avec des arbres qui poussent soit en hauteur, s'ils doivent lutter avec leurs voisins pour accéder à la lumière, soit en diamètre et sur les côtés si les photons sont rapidement assimilables. Puis il suffit d'un coup de vent ou de la mort d'un arbre pour que la forêt recherche un nouveau point d'équilibre, si l'équilibre il y a. Des espèces en attente profitent de l'occasion pour s'exprimer enfin, certaines de manière transitoire, seulement quelques jours parfois, puis laissent leur place aux suivantes dans la succession forestière. La mort des arbres n'est donc pas une rupture ou la fin d'une histoire, mais plutôt une opportunité pour Silva d'expérimenter un nouveau système écologique. Mais quoi qu'il arrive, l'habitat qui se mettra en place sera régi par les mêmes règles imposées par la nature, immuables. Accéder à la lumière, chercher les oligo-éléments du sol pour les associer aux molécules de l'air, nécessaires à la construction de succès via la photosynthèse. Dans cette histoire, l'eau prend une importance vitale, sorte de juge de paix, permettant de faire fonctionner l'équation délicate de la construction de tissus végétaux. Prendre sa place en luttant, sans pour autant mettre en péril l'ensemble de l'écosystème, et trouver un point d'équilibre entre compétition et entraide. Et c'est finalement dans la diversité des points de vue des moyens d'expression de la nature, entre les différentes espèces ici présentes, que se trouve le gage d'une réussite, la résilience de la forêt. Être un chêne, Laurent Tillon. Ingrid Bonhem et Laurent Tillon, bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour.
Laurent Tillon, puisque nous ouvrons cette émission avec un extrait de votre ouvrage publié il y a 4 ans chez Actes Sud, la forêt française en ce moment, est-ce qu'elle doit faire preuve d'une capacité particulièrement importante d'adaptation et de résilience face aux changements d'hiver ?
La forêt n'a pas trop le choix, compte tenu effectivement des épisodes de sécheresse et de forte chaleur qu'elle a connues ces dernières années, et puis des perturbations et des incertitudes qui la guettent, en effet.
Ouais. Et ça, est-ce qu'elle a déjà été obligée de développer autant d'efforts qu'en ce moment ou pas ?
Par le passé, elle a été confrontée à des épisodes parfois très secs, des épisodes un petit peu plus chauds, mais jamais sur des périodes aussi longues et puis de manière aussi brutale. On est vraiment dans une période durant laquelle on peut vraiment alterner entre des étés très humides comme on a connu l'année dernière, et puis suivaient 2 ou 3 étés très très secs et surtout avec des températures très très fortes. On a pu parfois mesurer des températures de pas loin de 50 degrés en canopée pendant plusieurs après-midi d'affilée.
Ouais, la forêt, elle n'est pas faite. Au sommet, hein, à la cime.
Exactement.
Des arbres.
Hein. Ouais.
Ingrid Bonhem, puisque l'on parle de résilience, vous êtes basée à Saint-Médard-en-Jailles, en Gironde. Comment va la forêt après les incendies de 2022, ces incendies qui ont marqué tous les esprits ?
La plupart des parcelles incendiées ont été récoltées et les gestionnaires ont donc replanté en général. Ce qu'on a observé dans nos relevés d'inventaire forestier, c'est qu'au niveau de la flore, en fait, il y a eu pour l'instant des modifications qu'on observe avec un peu plus d'espèces qui aiment justement la lumière, puisqu'il n'y a plus de couvert, et aussi par contre une explosion des espèces invasives qui ne sont plus limitées par les espèces d'arbres. Et aussi quelques espèces qui aiment un peu plus l'eau, parce que sûrement que la nappe d'eau est remontée du fait qu'il n'y ait plus les arbres pour l'absorber.
Et donc ça veut dire quoi, au niveau d'un bilan qu'on pourrait faire comme ça, 3 ans plus tard? Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots?
On peut en dire que les gestionnaires réagissent quand même, et que malgré tout, la forêt, le feu n'est pas anodin, et a quand même des impacts.
Laurent Tillon.
C'est vrai que le constat est finalement assez disparate. Ça a été un choc terrible, c'est un choc quand même pour l'écosystème. Mais par endroits, on voit des petites poches, des petits refuges qui ont réussi à rester préservés parce qu'ils sont passés le feu est passé à côté. Et on voit une recolonisation par tout un tas d'espèces propres à la forêt qui laisse présager quand même d'une certaine capacité de recolonisation forestière, même par voie naturelle. On voit par exemple des petits chênes lièges, des petits chênes verts qui prennent le relais, parfois dans des parcelles dans lesquelles on avait des pins maritimes. On a des suivis notamment engagés en forêt de la Teste de Buch depuis 2023, sur des parcelles sur lesquelles on avait déjà réalisé des inventaires préalablement, et si on a perdu une partie de la biodiversité, il y en a une autre qui est en train de s'installer. Parfois des espèces exotiques envahissantes, parfois d'autres espèces qui étaient présentes et qui viennent vraiment comme des recolonisateurs.
Ouais, donc ça rebat complètement les cartes, sur les espaces qui ont été brûlés.
Oui, totalement. Et du coup, on est vraiment en train d'observer tout ça avec des grands yeux pour essayer de comprendre effectivement à quoi vont être confrontées nos forêts.
Ouais. Les feux qui, dans certaines parties de la Gironde, d'ailleurs Ingrid Bonnem, se sont définitivement éteints que cette année. Donc ça a été 3 ans par endroit avant que ce soit totalement terminé. C'est assez incroyable quand même, non ?
Oui, exactement, puisque dans le sol, il y avait de la lignite, et c'est ce matériau qui continue de brûler à bas bruit.
Oui.
Et effectivement, on a
c'est
eu...
C'est un charbon naturel, en fait, c'est ça. Donc ça faisait office quasiment de combustible. Hein.
Exactement, ouais. Exactement. Et comme un peu dans les tourbières, comme si on avait des tourbières, mais avec un matériau un petit peu...
Ouais. Vous étiez surpris que ça dure aussi longtemps, d'ailleurs, ou pas ?
Oui, alors moi, je connais pas particulièrement ces sujets-là, mais effectivement, c'est tout comme tout un chacun, en fait, on a été surpris de cela.
Laurent Tillon, est-ce qu'on a tiré de bons enseignements, d'ailleurs, de ces incendies de 2022 ? Est-ce que les forêts de monoculture de pins, par exemple, vont redevenir des forêts de monoculture de pins ou pas ?
Mais on essaie d'éviter. On essaie d'éviter pour plein de raisons d'ailleurs. À la fois à cause du risque incendie, notamment les pins, ils ont cette particularité de relâcher des gaz. Ils dégazent exprès pour tenter de se débarrasser de la partie un peu combustible. En tout cas. Pour partie, et ça peut être un élément d'accélération de propagation des feux. Aujourd'hui, l'idée, c'est bien de tenter au maximum de laisser faire complètement les cycles naturels. Et d'ailleurs, quand on a un énorme incendie, quand on est confronté à un incendie comme ceux qu'on a vécu, la première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on attend 3 ans pour voir comment réagit le milieu. Et s'il n'y a pas déjà des solutions que la nature trouve par elle-même, notamment avec des petites graines de feuillus qui viendraient s'installer, c'est le cas à la Teste de Buch, comme je le disais, pour le chêne vert, pour le chêne liège. On voit quand même quelques espèces qui viennent en recolonisatrices et ça vaut le coup de miser sur elles. Donc l'idée, ça va être de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et puis à la fois de miser sur ce qui arrive et, si nécessaire, de faire un petit regarni avec quelques plantations.
Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut mener avec tous les acteurs quand même du terrain.
Avec tous les acteurs du terrain, tous les acteurs de la filière, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment préparer tout le monde à la nouvelle manière d'envisager la gestion forestière et surtout la gestion de ces espaces après des aléas comme constituent les grands incendies.
Ingrid Bonnem, on le disait en titre, expansion et dégradation de la forêt, parce qu'au fond, on n'a jamais eu autant de forêts en France qu'aujourd'hui.
Alors, d'un point de vue immémorial, je pense que si, mais actuellement, en tout cas, depuis 2 siècles, où on était à ce qu'on appelle le minimum forestier, nous avons une expansion très forte, et puisque actuellement nous sommes à 32% de taux de boisement des forêts, et que nous étions à peu près à 19% il y a un siècle.
Ouais. Et cette forêt, elle appartient à qui alors ?
Eh bien, elle appartient pour les 3/4 aux propriétaires privés et pour un quart aux propriétaires publics que sont l'État ou les collectivités essentiellement.
Et quels sont les départements avec le plus fort taux de boisement, Laurent Tillon, en France ?
Alors, si on regarde la carte de près, il est vrai que le secteur des Landes, qui a fait l'objet de gros reboisements, notamment du coup la Gironde et puis les Landes, sont vraiment 2 départements qui sont très très boisés. Mais il n'empêche que, on va dire, la frange est, à la fois les forêts du nord-est, du Grand Est en particulier, sont très très massives. Elles constituent vraiment des grandes surfaces. Puis après, les massifs montagneux qui ont fait l'objet de reboisements, notamment au 19e siècle, pour tenter de tenir un peu la montagne, du coup, constituent aujourd'hui des départements qui sont vraiment très boisés.
Ingrid Bonnem ?
Oui, alors du point de vue de la statistique de l'inventaire forestier national, les départements les plus boisés se situent en Corse, en fait, ouais. dans le Var et dans les Alpes-Maritimes aussi, et les deux départements de Corse, les Alpes de Haute-Provence, vraiment tout le sud-est est, ouais. fait partie des départements les plus boisés, en plus de la Gironde.
Et quelles sont les essences les plus présentes en France, alors dans nos forêts? S'il faut dresser pareil une petite photographie rapide.
Alors les chênes sont vraiment très très bien représentés. C'est vraiment d'ailleurs une essence, ce sont des essences puisqu'il y en a plusieurs, qui sont vraiment bien présents, notamment vous voyez dans le centre de la France et puis encore une fois dans le nord et puis dans l'est. Ensuite suivent des résineux, en particulier avec des pins. Là, il y a plusieurs espèces de pins qui sont aussi très présents. Alors le pin maritime, notamment dans les Landes, mais qui en vient à progresser un peu. Par contre, au dépend d'autres essences comme le hêtre, qui lui souffre un peu et est en train de reculer parmi les différentes essences principales.
Laurent Tillon, comment on peut qualifier l'état de nos forêts actuellement? Docteur Tillon, devrais-je dire, s'il faut dresser un état de santé là, de ce qui se passe.
Alors, si on sortait le stéthoscope, on verrait que il y a des parties qui s'en sortent pas trop mal, il y a des organes qui tiennent et d'autres organes qui tiennent moins bien. Aujourd'hui, le bilan qu'on peut dresser, c'est que il y a des secteurs de forêt qui sont habitués à vivre des épisodes compliqués, notamment de sécheresse. C'est le cas un peu des forêts du sud-est. Et puis d'autres forêts, par contre, notamment du nord, qui se sont pris notamment les grandes sécheresses à partir de 2018, qui ont fortement affecté leur état. Et là, pour le coup, pour des forêts qui n'étaient pas du tout préparées à ça. Et ça va même jusque les forêts de chênes, les forêts ligériennes, vraiment du centre de la France, qui ont connu pour certaines d'entre elles, je pense en particulier à la très très belle forêt de Troncée du nord de l'Auvergne, avec des grands chênes de 45 mètres de haut. Ces arbres, ils ont poussé en ayant une certaine quantité d'eau, 1200 mm de pluie historiquement dans cette région. Et en 2018, 2019 et 2020, ils ont connu 3 années successives à seulement 350 mm de pluie.
Ah oui, donc ça c'est un énorme stress hydrique pour les arbres.
Et ça a été un stress hydrique incroyable parce que la manière dont fonctionne l'arbre fait que pour que l'eau arrive jusqu'en haut, il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en œuvre, mais il faut qu'il y ait toujours la même quantité d'eau pour aller jusqu'au sommet de l'arbre. Et l'arbre, il pousse en fonction de cette quantité d'eau. Si à un moment donné, on coupe l'arrosoir, s'il n'y a plus d'eau dans le robinet, à un moment donné, l'eau ne peut plus arriver jusqu'en haut de l'arbre. Ça a été un choc radical.
Allez, on va poursuivre dans un instant autour du bulletin de santé à la fois de la forêt et puis voir comment on surveille cette forêt, comment on s'adapte aussi aux changements en cours. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr. On se retrouve dans un instant.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous sommes dans une sapinière, on est en forêt domaniale du Donon. Cette sapinière, quand on regarde nos outils, nos projections climatiques, en 2050, elle est vulnérable. Le sapin ne passe pas 2050, c'est-à-dire qu'avec un réchauffement encore de 1 à 2 degrés, il serait en grande difficulté. Il y a quand même urgence à aider à adapter les forêts, parce que plus on tardera, plus les réponses, si on doit les faire dans 20, 30 ans, 40 ans, seront difficiles, et plus l'impact du changement climatique sur les forêts sera fort. Donc il faut anticiper dès maintenant.
Et 2050, c'est demain à l'échelle d'une forêt. C'était la voix de Rodolphe Pierra qui travaille à l'ENF dans le Grand Est autour d'un documentaire de France 24 en 2023. Laurent Tillon, vous êtes notre invité, vous qui êtes ingénieur forestier à l'ONF justement, Ingrid Bonhem. Vous êtes référence en écologie forestière à l'IGN. Ingrid Bonhem, on parlait tout à l'heure de l'état des forêts françaises en ce moment, très contrasté. On parle aussi d'un taux de dépérissement très important en forêt publique en particulier. Ces dernières années, on a même des taux de mortalité inédits par endroit.
Exactement. En fait, la mortalité a doublé en 10 ans. Donc, ce qui est un phénomène quand même très marquant, puisqu'on, en général, les évolutions des statistiques forestières se font à pas régulier. Ouais. Alors que là, en 10 ans, on a doublé. On est passé de 7,4 millions de mètres cubes de bois mort par an à 15,2 millions de mètres cubes.
Donc beaucoup plus de mètres cubes à gérer, Laurent Tillon, c'est ça que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il faut réussir effectivement à gérer ces bois-là. Alors, dans certains cas, on peut très bien les laisser en place parce que ça a un intérêt vis-à-vis de la biodiversité et puis laisser faire les dynamiques naturelles. Mais dans plein de cas, en réalité, notamment parce parce qu'il y a une filière, notamment parce qu'il y a des enjeux de sécurité, parce qu'il y a des emplois derrière, puis parce que le bois, c'est une véritable ressource face à l'acier, au béton ou à d'autres matériaux. Le bois, c'est un matériau qui est noble. Mmh. Donc, du coup, il faut le gérer et ça a été un peu compliqué et on en est venu. Il y a 10 ans, ces bois-là morts pouvaient constituer 7% des produits bois qu'on sortait de la forêt.
Ouais.
Et là, maintenant, on est plutôt aux alentours de 26% de tous les bois qu'on sort des forêts. Ce sont des bois en train de dépérir à cause du changement climatique.
Donc ça fait une gestion qui est assez monstrueuse finalement. Ouais.
Et qui est très particulière pour nous parce que, alors qu'on est sur la base de gestion forestière qui s'appuie sur des documents de gestion à 20 ans, là, il faut qu'on rejoue complètement les cartes qui sont rebattues de manière à s'adapter à ce que la nature est en train d'imposer à nos forêts et gérer parfois les parcelles au regard d'un dépérissement qui est en train de s'opérer. Et si on n'agit pas vite, en fait, on peut perdre à la fois la qualité des bois et puis perdre un avenir possible de la parcelle en question.
Ingrid Bonhomme, vous nous disiez, ça fait une dizaine d'années hein, à peu près qu'on assiste à l'augmentation de ce dépérissement. On a bien identifié les raisons ou pas ?
Les raisons principales qui expliquent ces chiffres, en fait, ce sont donc les attaques de scolytes sur l'épicéa dans l'est de la France,
Ouais. Les
attaques de diverses maladies pour le châtaignier et des attaques de la calarose pour le frêne. Donc ces trois essences font augmenter considérablement la mortalité. Après, on observe aussi des mortalités plus liées à la sécheresse sur les chênes, comme expliquait Laurent.
Et donc, ces problèmes-là, ils sont liés à quoi, précisément? Si on retourne encore plus à la source, pourquoi des scolytes, tout d'un coup, de plus en plus
Alors, si on retourne à la source, en réalité, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'il n'y a jamais un seul facteur unique qui peut créer la mortalité chez un arbre. Il y a une succession de facteurs et de stress qui peuvent se cumuler. À partir du moment où un arbre, par exemple, est soumis à un stress hydrique très très fort, la sève ne monte plus jusqu'en haut de l'arbre, et ça crée un problème tout en haut, avec des petites bulles d'air qui finissent par se former parce que, à un moment donné, le vaisseau conducteur de sève finalement n'est plus alimenté, il y a un vide
Ouais. Qui
en vient à être occupé par une cavitation qui crée un point d'entrée possible pour des organismes décomposeurs qui n'attendent que ça. Les scolytes en sont. Et finalement, les scolytes, voilà, il y a des avis un peu différents sur le sujet au sein de la filière forestière. Les scolytes, c'est des révélateurs de problèmes sous-jacents à la mortalité de l'arbre et à l'attaque du scolyte lui-même. En réalité, un arbre qui va très très bien, qui se défend très bien, il y a beau y avoir des scolytes, les scolytes n'ont pas de voie de pénétration possible.
Oui.
Mais parce que l'arbre a des parties qui ne sont plus alimentées,
il y a des opportunités à prendre, quoi, finalement.
Il y a des opportunités que saisissent les insectes.
On n'a pas prononcé le mot de réchauffement climatique, mais en fait c'est un peu ça quand même le problème à la base, j'imagine.
Ben le problème à la base, c'est que ces arbres, ils sont en souffrance à cause des très fortes températures et puis à cause du manque d'eau qui effectivement les soumet à des stress qui deviennent trop importants.
Ouais. Ingrid Bonhomme, oui, vous voulez réagir?
Oui, justement, ces épicéas subissent aussi un stress parce qu'ils ont les premiers à dépérir ont été en fait ceux qui sont en plaine et qui n'ont pas été plantés en fait dans leur ce qu'on appelle station naturelle. Et du coup, ils subissent encore plus de plein fouet ce
réchauffement. Parce qu'ils sont encore plus fragiles, n'étant pas forcément du milieu originel.
Exactement.
Ouais. On peut lire dans certains rapports de l'ONF que d'ici 50 ans, la moitié de la forêt française pourrait avoir complètement changé de visage, Laurent Tillon. Comment il faut l'interpréter, ça ?
Eh bien, c'est vrai. Pour vous donner une petite idée, prenez le bassin parisien. Le bassin parisien, à échéance de 50 ans, se verra au cœur d'un climat typiquement méditerranéen.
Donc, c'est-à-dire toutes nos forêts type Rambouillet, Fontainebleau
Rambouillet, Fontainebleau, on peut même descendre jusqu'à la forêt d'Orléans, monter jusqu'à la forêt de Compiègne,
ouais.
Si on regarde la carte avec le nord, le sud. Donc, en fait, ça va assez loin. Et ça va terriblement affecter les végétations qui sont présentes.
Et dans 50 ans, c'est une forêt méditerranéenne?
Dans 50 ans, c'est un climat méditerranéen. Le problème, c'est qu'on est exposé à une temporalité qui est celle de la forêt. Et nos arbres qui aujourd'hui ont 150 ou 200 ans, si on voulait les remplacer intégralement, bah pour avoir des arbres de 150 ou 200 ans, il faut 150 ou 200 ans. Sauf que là, le pas de temps, il est de 50 ans.
Parce que ça s'accélère. Il y a une vélocité très forte.
Exactement.
Et on n'arrive pas forcément à s'adapter à cette vélocité?
En tout cas, on essaye de préparer les forêts, déjà en améliorant notre niveau de connaissance, pour ensuite s'en inspirer afin de réagir.
Ingrid Bonhomme.
Oui, ce qui se passe, c'est que de tout temps, les écosystèmes ont évolué et le climat a évolué. Et le problème que nous avons, c'est que les arbres peuvent migrer évidemment naturellement, mais en fait, la rapidité du changement climatique est telle qu'ils n'arrivent pas à migrer assez vite pour reconstituer des aires naturelles.
Ouais. Comment ça migre naturellement, d'ailleurs, un arbre ?
Mais ça migre tout simplement quand les graines tombent au sol et qu'elles sont embarquées par des petits mammifères, par exemple, ou par des oiseaux, comme pour le chêne avec le gé.
Donc ces animaux qui eux-mêmes changent finalement de latitude en raison du changement climatique, par exemple, transportent avec eux ces graines ?
Ou plus exactement, je pense qu'ils vont aléatoirement un peu plus au nord, un peu plus au sud, et finalement, aléatoirement, les graines germent et progressent ainsi.
Oui, Laurent Tillon ?
Ouais, par exemple, le gé des chênes dont Ingrid vient de parler, c'est un oiseau forestier qui aime bien transporter et faire des caches, et c'est comme ça qu'il en vient par moment, effectivement, aller pourquoi pas un petit peu plus au nord, et c'est comme ça que le chêne peut migrer de 1 km par an, mais seulement 1 km par an. Et vu la vitesse d'évolution...
Il faudrait qu'il aille plus vite, en fait.
Un bassin parisien au climat méditerranéen, il faudrait que les graines méditerranéennes arrivent chez nous en 50 ans.
Ouais.
C'est là qu'est le défi.
C'est très rapide. On va écouter votre collègue Nathalie Derrière de l'IGN, qui est chef du département Résultats Inventaire.
On estime que le dépérissement en France touche à peu près 670 000 hectares de forêt, soit 3 à 4 % de la superficie forestière. Si on voulait comparer ça avec les surfaces incendiées, il faudrait comptabiliser 35 ans d'incendie pour arriver à cette même surface. Donc c'est une forme de mort plus silencieuse de la forêt que les incendies, mais tout aussi inquiétante.
Nathalie Derrière, donc de l'IGN, elle s'occupe de l'inventaire, Ingrid Bonnem. Ça consiste en quoi, en fait, de faire un inventaire de la forêt ?
Alors, l'inventaire de l'IGN, l'inventaire forestier, c'est un inventaire statistique. En fait, il a le même rôle que l'INSEE a pour tout ce qui est statistique de
population.
La population.
Ouais.
Et donc, de la même manière, on opère un choix de placettes que l'on va visiter sur le terrain.
C'est quoi des placettes ?
Des placettes, c'est les endroits où on mesure la forêt.
Mmh.
Et donc, sur lequel on applique un protocole standardisé.
C'est quoi ? C'est des petits carrés, en fait, c'est ça ?
Alors,
faut l'imaginer comme...
nous, ce sont des placettes circulaires, donc de différents... diamètre.
Ouais.
Et sur ces différentes placettes, on observe différentes choses, dont les espèces d'arbres, leur diamètre, leur circonférence, la mortalité dans leurs branches.
Les écosystèmes alentour.
Et voilà aussi, nous observons le type d'habitat naturel, le type de sol, le type d'humus et effectivement la flore du sol également.
Ça fait combien de temps qu'on procède à des inventaires comme ça sur la forêt française ?
Alors l'inventaire forestier national date de 1958. Autrefois, il y a eu des statistiques comme des inventaires d'Aubray en début du XXe siècle et quelques autres documents historiques auparavant, mais de manière un peu régulière, c'est depuis 1958.
Ouais. Et on a réussi à quadriller tout le territoire ou c'est vraiment sur des parcelles en particulier parce qu'on n'a pas les moyens d'aller partout ?
Alors le territoire hexagonal et corse est complètement quadrillé avec une maille de 1 km sur 1 km. Par contre, il y a effectivement à peu près 5% de la forêt qui reste malheureusement un peu inaccessible à nos statistiques parce que soit c'est des accès trop dangereux, soit trop loin et que ça coûterait plus cher en fait d'y aller. Et donc il y a à peu près 5% des points qui ne sont pas visités, même si on constate qu'à la photo aérienne que ce sont des forêts.
Laurent Tillon, ça vous sert vous ces inventaires de la forêt ou pas à l'ONF ?
Nous, c'est une base sur laquelle on s'appuie pour comprendre quelle est la nature de la forêt et notamment des espaces qu'on
gère. Et comment elle évolue précisément ?
Exactement.
Avec un recul, là, justement, depuis les années 50-60 ?
Exactement. Dans les variables qui sont mesurées par l'IGN, il y a notamment des variables sur le bois mort, sur l'évolution des essences dans les parcelles, sur lesquelles nous, on s'appuie, on se base de manière globale, au niveau national, pour nous aider à orienter les dispositifs de gestion qu'on va mettre en place.
Allez, on va en parler justement de la gestion à l'heure du réchauffement climatique, avec les messages et les questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Alors ici, principalement, c'est du chêne, l'huître. Vous avez quelques morisiers par endroit du frêne. Et puis dessous, c'est le taillis avec du charme, du trempe, du bouleau, ainsi de suite, différentes essences. Depuis quelques années, la forêt que je perçois, moi, localement, la forêt est devenue une source de pognon, de pognon, de pognon. Les hommes ne viennent plus dans la forêt, de moins en moins. Faire du bois, ça prend du temps, bon. C'est une autre société qui est en train d'arriver.
Il s'appelle Charles Giroux, ancien forestier dans le Jura. C'était un documentaire du Figaro en 2005, en mars dernier. La forêt, c'est du pognon, Laurent Tillon, vous qui bossez à l'ONF, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, j'en pense que c'est pas que ça quand même.
Les hommes ne viennent plus dans, enfin, les humains ne viennent plus dans la forêt.
Ah, je vois pas tout à fait la forêt de la même manière et le travail des forestiers de la même manière. On est quand même sur une gestion qui s'appuie sur des documents de gestion à long terme et ce qu'on vit de plus en plus aujourd'hui, c'est justement et on bénéficie de tout le travail qui est fait notamment par les statistiques de l'IGN et puis de certains suivis qu'on met en place nous au sein de l'ONF. On s'appuie dessus pour enclencher une gestion forestière qui s'appuie de plus en plus vers ce que la nature nous propose et notamment par exemple le socle de la régénération des forêts, c'est un socle de régénération naturelle, c'est-à-dire c'est issu des graines, des grands arbres qui se trouvent au-dessus et qui, à un moment donné, sont coupés.
Justement, ce qu'on appelle la forêt en libre évolution, est-ce que c'est une réalité importante dans la forêt française ou pas ?
Alors, en tout cas, pour la forêt publique, oui.
Donc c'est vraiment cette forêt où l'intervention humaine n'a pas lieu d'être, c'est ça ?
En fait, c'est des forêts qui, dans lesquelles on ne fait rien, on laisse faire complètement les dynamiques naturelles et on observe un petit peu ce qui s'y passe. À la fois, c'est des espaces qui servent de refuge pour la biodiversité et à la fois, c'est des zones qui sont de véritables laboratoires pour nous aider à comprendre quelles sont les évolutions naturelles de nos écosystèmes forestiers.
Mais il y en a beaucoup en France ou pas ?
Eh bien, par exemple, pour les forêts publiques, on est autour de plus de 90 000 hectares. Parmi les forêts qu'on gère, nous, l'ONF, on gère 4,7 millions d'hectares au total.
France métropolitaine ?
France métropolitaine, avec en gros 1,9 million d'hectares de forêts domaniales. Le reste, ce sont des forêts de collectivité. Et il y a une grosse composante des parties forêts domaniales dans lesquelles on a effectivement des espaces en libre évolution, alors soit sur des toutes petites surfaces, soit sur des plus grandes surfaces. D'ailleurs, ça fait l'objet de statuts forts de conservation. On en fait des réserves biologiques intégrales dans lesquelles on laisse faire complètement la nature.
Ingrid Bonhem, d'ailleurs, sur les inventaires dont on parlait tout à l'heure, ils sont effectués de la même manière en métropole que dans les territoires ultramarins ou pas ?
Alors actuellement, l'inventaire forestier national, pour l'instant, n'est que sur la métropole et la Corse et est actuellement en train de développer un travail justement en partenariat avec l'ONF pour inventorier les départements d'outre-mer.
Oui, parce qu'il y a de quoi faire en matière de forêt. Quand on parle que de la Guyane, par exemple, c'est quand même...
énorme.
Notre première forêt française,
exactement.
Laurent Tillon.
Oui, exactement.
Et d'ailleurs, justement, sur la Guyane, on a lancé depuis déjà quelques années un programme qui s'appelle Guyafort et qui a pour mission et objectif d'observer la forêt en Guyane pour tenter d'en mesurer les évolutions. Et c'est là que le travail de l'IGN va être important pour compléter les dispositifs mis en place.
Ingrid Bonhem, quand on réfléchit à la forêt de demain, justement dans le cadre du changement climatique qui va extrêmement vite, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que l'idée c'est de pouvoir établir une espèce de plan de bataille qui est mis sur la table pour tenter de sauver la forêt ? Comment on s'y prend là aujourd'hui concrètement ?
Alors, comment s'y prennent en fait les politiques publiques ? Nous, l'IGN, on donne des chiffres aux décideurs pour qu'ils puissent décider de manière le plus éclairée possible. Et ce qu'on essaie de dire dans une étude qui a été faite par des collègues sur la prospective avec différents scénarios, c'est qu'il faut sûrement ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais que la solution, par exemple, au puits de carbone, pour qu'il ne chute pas avec la grosse mortalité qui arrive, c'est que la filière bois doit aussi jouer son rôle, et c'est-à-dire qu'il faut aussi stocker du carbone dans les produits bois, en particulier.
Donc, maintenir la forêt à ce titre-là aussi, par exemple,
pour stocker
le carbone. Hein.
Maintenir la forêt pour stocker le carbone, mais maintenir aussi la production de produits bois en France plutôt que d'importer du bois.
Ouais. Laurent Tillon, les forêts, c'est après les océans, les deuxièmes puits de carbone, je crois, sur la planète.
Oui.
Donc, évidemment, pour la forêt française, c'est exactement la même chose. Est-ce que pour l'instant, on est toujours dans ce processus où la forêt capte du carbone plus qu'elle n'en rejette ou pas ?
Alors, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des mortalités beaucoup plus importantes et puis des accroissements des forêts qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on pouvait constater précédemment. Donc, on observe quand même un ralentissement de la captation du carbone par les forêts.
Ingrid Bonhem.
Oui, exactement.
Ce qui n'est pas bon signe, évidemment.
Non, ce qui n'est pas bon signe. En fait, c'est lié à le doublement aussi de la mortalité. Mais en réalité, on est passé en fait d'un bilan entre ce qui... ce qui est accumulé en forêt par le fait de la photosynthèse et donc la production nouvelle de bois, et ce qui est supprimé de la forêt par la récolte de bois et la mortalité. Nous avions, pendant la 2005-2013, un bilan positif de 41 millions de mètres cubes à peu près, et maintenant nous sommes à peu près à 20 millions de mètres cubes. Donc en gros, nous avons baissé de moitié ce puits de carbone.
Donc c'est pas une bonne nouvelle du tout.
Oui, exactement. Et puis, il y a une raison toute simple à ça, hein. C'est que dans la manière dont l'arbre fonctionne pour arriver à fixer le carbone, donc il capte le carbone de l'air, il les amalgame aux oligo-éléments qu'il a tirés du sol, mais à un moment donné, il y a un élément qui est clé là-dedans, c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, à un moment donné, au sein de la feuille, la photosynthèse ne peut pas se réaliser. Comme il y a moins d'eau, inévitablement, il y a moins de fonctions photosynthétiques, donc moins de captation du carbone.
Et alors, c'est quoi le plan de bataille, Laurent Tillon, aujourd'hui, quand on est un observateur de la forêt française pour l'anticiper et l'adapter au mieux à ce qui se passe au niveau du climat?
Alors, le plan de bataille, il est multiple. Le premier, c'est l'observation, ça on en a beaucoup parlé. De cette observation, on en tire quoi? On en tire le fait que il y a des adaptations qu'on est déjà en train de commencer à observer chez certaines espèces. Prenons le cas du chêne. Le chêne détient déjà, parmi les graines qu'il transmet actuellement, hein, des adaptations, des conditions auxquelles les arbres dont ils sont issus sont soumis. Ça veut dire que, en gros, ces arbres qui arrivent et qui tentent de résister au changement climatique produisent des graines qui présentent des adaptations. Nous, on s'appuie essentiellement sur ça, sur la régénération naturelle. Et après, il y a d'autres dispositifs. Ça peut être, dans certains cas, des plantations permettant une migration assistée. Ces fameux chênes qui auraient du mal à migrer.
Donc, on les aide à aller un peu plus au nord, par exemple.
On les aide à aller un peu plus au nord. Et puis, on fait aussi d'autres plantations de manière beaucoup plus parcimonieuse qui visent à tester de nouvelles essences pour voir si elles seraient capables de s'adapter dans nos contextes climatiques.
Et le rôle de la biodiversité qui est essentiel aussi, puisque d'ailleurs vous avez créé là, juste il y a quelques jours, un département biodiversité, aussi dans l'optique de l'adaptation des forêts au changement climatique.
Ce qu'on observe, c'est que plus il y a de biodiversité dans nos forêts, plus elles résistent aux aléas, qu'il s'agisse d'incendies, de sécheresses, de fortes températures, de tempêtes, d'inondations, donc on a tout intérêt à miser sur elles.
Allez, on passe aux questions. Thierry nous envoie ce message, il dit « On a bien compris l'évolution des forêts dans la partie nord, forêt de type méditerranéenne, mais qu'en est-il du sud ? Est-ce qu'on parle de disparition des forêts, de climat quasi désertique ? » Qui veut répondre à cette question ? Laurent Tillon ?
En tout cas, ce qu'on observe, et notamment via les études et les analyses qui sont menées par l'IGN, mais aussi par nos effectifs sur le terrain, c'est qu'on a quand même dans des forêts méditerranéennes des dépérissements et des assèchements de certains types de forêts. Par exemple, on a des chênes verts qui en viennent à jaunir de manière anormale en plein été.
Benjamin nous dit « Je viens de devenir propriétaire d'un petit bois de 3 hectares, un boisement spontané riche en chênes en Sud-Bretagne. Quelle est la meilleure façon de préserver ce trésor et de garantir sa pérennité ? Quelle gestion mener sans forcément réfléchir gains financiers mais maintien de la biodiversité ?» Grit Bonhem.
Déjà, il faut qu'il examine quelle est sa parcelle, quel niveau d'eau elle peut conserver dans son sol.
Pour faire un inventaire, c'est ça ? Faut vous appeler pour faire un petit inventaire ou pas ?
Non, il peut appeler un gestionnaire forestier, tout simplement. Ouais. et du coup, maintenir les essences qui ont une grande diversité d'essences pour voir lesquelles seront les plus à même de résister aux changements.
Donc, faut se faire un petit peu aider quand même.
Faut se faire un peu aider et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Ouais. Par qui on se fait aider ? Alors, par un gestionnaire qui est là ? Alors, pour les particuliers, c'est possible ?
On peut se faire aider par des experts forestiers ou le centre régional de la propriété forestière qui est là pour ça.
Noémie, j'ai 5 hectares de forêt du côté d'Aix-en-Provence. Ben, bravo, aujourd'hui majoritairement des chênes verts, pins. Y a-t-il des essences d'arbres à planter autres dès maintenant ?
Moi, je pense qu'à partir du moment où vous surveillez votre forêt, notamment pour 5 hectares, de laisser faire les dynamiques naturelles qui ont l'air de s'opérer si vos chênes et vos pins tiennent bien, il n'y a pas de raison de forcément tout couper tout de suite. Il faut surveiller.
Il y a une question de Brigitte qui nous dit « J'aimerais savoir si les forestiers qui détruisent nos forêts ont le droit de le faire alors que les oiseaux sont en période de reproduction et nichent justement dans les arbres. » Rantillon.
Normalement, non, faut éviter. La période du printemps en particulier, normalement, on proscrit d'y intervenir justement pour éviter de perturber les cycles de reproduction de toutes les espèces. Les oiseaux, les mammifères
et les autres espèces. Les chauves-souris,
qu'on apprécie particulièrement.
Vous en particulier. Gilles, à quoi est dû le fait que les châtaigniers soient bien représentés dans nos forêts et absents, par exemple, dans la forêt anglaise ? Qui veut répondre, Ingrid Bonhem ?
Je pense que le châtaignier a une affinité quand même méditerranéenne un petit peu, enfin un peu plus chaude. Je ne connais pas spécialement l'Angleterre. Mais...
Et puis il est issu d'une histoire, d'un historique de progression, notamment des Romains qui, quand ils ont envahi la Gaule, ont fait suivre notamment certaines essences. Le châtaignier en a fait partie et du coup il a été particulièrement planté dans nos forêts en période gallo-romaine.
Merci beaucoup à tous les deux, Ingrid Bonhem de l'IGN, Laurent Tillon de l'ONF. Laurent Tillon, votre dernier ouvrage, c'est une bande dessinée, Chronique d'une vie à l'envers, une nuit avec les chauves-souris, justement, c'est aux éditions Actes Sud. Merci à Joël Levert qui a préparé aujourd'hui ce dossier.